السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بشفاعه الاسلام الله عز وجل a vraiment gratifié cette umma. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à cette communauté des bienfaits qu'il n'a accordé à aucune autre communauté. Sur le plan purement matériel et palpable, les Banu Israël, les Israélites, c'est-à-dire ceux qui étaient avec Moïse, Moussa alayhi salam, avaient eu certainement plus de bienfaits que nous. Mais sur le plan quantitatif, la qualité et les hasanat, les récompenses, la rétribution, sur le plan, on va dire rapport, excusez-moi, qualité-prix entre l'action accomplie et la récompense, le natija, l'équivalent dans l'au-delà, nous sommes vraiment la umma la plus choyée, la plus récompensée par Allah Azza wa Jal. Et ce n'est donc pas pour rien si Allah Azza wa Jal nous a qualifié comme étant khayra umma, la meilleure des communautés, la communauté la plus aimée par Allah. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal accorde à une personne ou à des populations, à une communauté, lorsqu'Allah Azza wa Jal accorde des bienfaits qui leur sera profitable de la vie de l'au-delà, c'est qu'Allah Azza wa Jal aime réellement ces gens. Autrement, Allah peut accorder des bienfaits terrestres, de l'argent, de l'honneur, de ce qu'on voit, les biens périssables de ce monde, mais le fait d'avoir les biens de ce monde ne prouve aucunement qu'Allah Azza wa Jal est content ou veut du bien pour nous. Par contre, lorsqu'Allah nous accorde le mot magique, c'est quoi? Le tawfiq, nous accepte, nous choisit pour de bonnes œuvres, nous choisit pour qu'on se rapproche de lui, c'est que là Allah Azza wa Jal nous aime réellement. Et à cette umma, il y a une spécificité, c'est la baraka, les bénédictions dans le temps. Il y a des périodes du calendrier musulman où Allah Azza wa Jal accorde à cette umma tellement de bienfaits qu'on ne peut jamais retrouver l'équivalent dans d'autres umma, dans d'autres communautés. Le mois de Ramadan qui vient de passer, subhanallah, il n'y a pas besoin de rappeler quelles étaient les hasanats, des récompenses, et comment Allah Azza wa Jal ouvrait en grand les portes de la bénédiction. Le mois de Ramadan passé, Allah Azza wa Jal gratifie cette umma d'une deuxième façon, par le biais d'une action simple, accessible. C'est le jeûne, le fait de faire le saum, jeûner 6 jours durant le mois de Shawwal, avec comme récompense la possibilité, Inch'Allah, si on était sincère, on l'a fait en respectant les règles, la possibilité d'avoir l'équivalent d'une année en saum, d'une année de récompense passée en état de jeûne. Ce sont là donc deux bienfaits qui se succède après le Ramadan, Shawwal. Ben, subhanallah, lorsque le mois de Dhul-Qa'da approche et se termine, et qu'on va commencer le mois de Dhul-Hijja, nous avons devant nous 3 grandes actions et 3 possibilités pour nous de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal d'une façon spectaculaire, extraordinaire, et qui prouve encore une fois comment Allah aime cette umma, et qui prouve surtout qu'Allah est karim, Allah est généreux, qui prouve le karam, la générosité d'Allah Azza wa Jal. Et ces 3 grands événements, ces 3 grandes actions qui sont dans le mois de Dhul-Hijja, vous l'avez compris, tout d'abord c'est un des piliers de l'islam, le hajj, pour ceux qui ont été choisis par Allah Azza wa Jal pour aller vers les lieux saints. Et avec, alhamdoulilah, dans notre communauté ici à La Réunion, nous avons à peu près 250 personnes qui vont aller vers Baytullah, qui ont répondu présent à l'appel d'Allah Azza wa Jal, et qui sont donc les hôtes, les invités d'Allah pour ce hajj. La deuxième action, on va dire que le hajj concerne les personnes qui ont les moyens et qui ont la possibilité de s'y rendre. Donc ça ne concernera pas l'intégralité de la umma. La deuxième action qui est extrêmement importante et qui est synonyme de Dhul-Hijja, de début de Dhul-Hijja, c'est le Udhiya, ce qu'on appelle ici le Qurbani, le sacrifice d'Abraham, d'Ibrahim alayhi salam, ce qui se fait le 10e Dhul-Hijja, le jour de Eid. Et ça aussi, on va dire que c'est une action qui est spécifique aux personnes qui ont les moyens, mais qui concernera un peu plus de personnes que le pèlerinage. Ça concernera les personnes qui ont les moyens. C'est là également une action exceptionnelle pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. La troisième action, et c'est celle-là qui nous intéresse un peu plus, et on va commencer par détailler cette action, c'est la première décade de Dhul-Hijja, qui elle concerne la Umma. La Umma dans son intégralité, quel que soit le niveau financier, de religion, d'ancienneté dans l'islam, les 10 jours de Dhul-Hijja ont été décrits de le hadith de Jabir radiallahu anhu comme étant afdal ayyam dunya, comme étant les meilleurs jours de ce dunya. Et si le superlatif afdal, le meilleur des jours, a été choisi, c'est que réellement cette première décade de Dhul Hijjah, elle est spéciale. Et ce qu'elle apporte à la Umma, à chaque croyant qui va donner le haqq, le droit à cette décade, c'est vraiment quelque chose qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Dans une autre citation de Ka'b, il est dit que Ikhtar Allahu Zaman, Allah Azza wa Jal a choisi les périodes de l'année. Et les meilleures périodes de l'année, les plus aimées par Allah Azza wa Jal, ce sont les mois sacrés. Et parmi les mois sacrés, le mois qu'Allah Azza wa Jal aime le plus, c'est le mois de Dhul Hijjah. Et dans le mois de Dhul Hijjah, wa ahabbu Dhul Hijjah ila Allahi al-ashru al-awwal. Et dans le mois de Dhul Hijjah, la période la plus aimée par Allah Azza wa Jal, ce sont les 10 premiers jours, la première décade de Dhul Hijjah. Et c'est d'ailleurs pour cela que selon la majorité des mufassirin, Allah Azza wa Jal a fait qasam par ces 10 jours dans le surat Al-Fajr, wal-fajri wa layalin ashr. Et selon la règle connue par les commentateurs du Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jal cite une période ou quelque chose dans le Coran par le qasam, ça prouve l'importance de cette chose. Également, nous savons en gros les hadiths qui parlent par exemple, on va dire, des vertus du vendredi. Nous savons que le Yawm al-Jum'ah, c'est le jour le plus important pour le musulman, c'est un jour de Eid. Ibn Umar radiallahu anhu, en citant les vertus du jour du Jum'ah, a dit « Laysa yawmun a'zamu 'indallahi min yawm al-Jum'ah laysa al-'ashr ». Dit qu'il n'y a pas un jour qui est plus aimé, qui a plus d'importance pour Allah que le vendredi, à l'exception. Et c'est le seul, la seule portion de temps qui fait exception de la règle concernant le vendredi, à l'exception des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Déjà avec ces 3 dalils, ces 3 preuves, nous comprenons clairement que la première décade que nous nous apprêtons à vivre, mes chers frères en islam, c'est un moment extrêmement important. Et qui dit moment important, dit préparation. Autant qu'on se prépare pour le mois de Ramadan, bien sûr, Dhul Hijjah et Ramadan, on ne va pas les comparer directement, mais autant qu'on donne de l'importance à l'organisation de notre temps et au fait de pouvoir profiter par le biais des bonnes œuvres dans le mois de Ramadan, autant le croyant se doit de se préparer psychologiquement, spirituellement, à vivre une décade extrêmement importante, la première décade de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours. Et vous savez, il y a même certains savants, certains grands savants de l'islam qui sont d'avis que la première décade de Dhul Hijjah aurait plus d'importance, plus de vertu que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Sachant que la dernière décade de Ramadan se distingue uniquement par Laylatul Qadr, la nuit du destin, alors que la première décade de Dhul Hijjah, chaque jour et chaque nuit, a son importance pour Allah Azza wa Jal. Donc la première étape, prise de conscience de l'importance des 10 premiers jours de Dhul Hijjah qu'on va commencer à vivre d'ici samedi, dimanche ou lundi. La deuxième étape, maintenant qu'on sait que ces jours sont extrêmement importants, est-ce qu'Allah Azza wa Jal attend quelque chose de moi? Bien sûr. Et c'est là, nous voyons la sunnah d'Allah, l'organisation des actions qui sont entre le cœur et les jawarih. Il y a en même temps, le croyant se doit d'être attaché à certaines choses, mais cet attachement ne doit pas rester uniquement au niveau du cœur. C'est-à-dire que j'aime Allah, ou alors j'aime mon prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et je me contente de les aimer dans mon cœur. Ça ne suffit pas. Aimer Allah, aimer son prophète, aimer les lieux saints, aimer le Coran, aimer le dhikrullah dans le cœur, c'est quelque chose de louable, il n'y a rien à dire. Tout va démarrer du cœur. Maintenant, cet amour doit se concrétiser par le biais des bonnes œuvres. Et c'est là qu'on vient vers le hadith beaucoup plus connu d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, rapporté par Imam Bukhari, dans lequel il dit « Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam » Il n'y a pas une période de l'année. Voyez bien comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi minutieusement les termes. Ma min ayyami. Il n'y a pas un jour, yani de l'année, minasana, de l'année. Al-amal salihu fiha ahabbu ila Allah. Où les bonnes œuvres sont autant aimées par Allah, min hadhihi al-ayyam, que ces jours. C'est-à-dire que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Alors donc, on a franchi une deuxième étape, on a compris que ces jours-là sont extrêmement importants, et on a compris qu'Allah aime ces jours, et qu'Allah aime voir le croyant accomplir de bonnes œuvres accomplir de bonnes œuvres durant cette première décade. Donc là, on dépasse le stade de sentiment, d'amour, d'affection intérieure. On vient vers la prise de conscience qu'il y a un travail à produire. Et c'est là que nous voyons quelles étaient les actions que le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam aimait accomplir durant cette première décade. Parmi les actions, hadith de l'imam Ahmed al-Muslim, Ahmed et Abu Daoud, de lesquels il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأنا في الفرنسية pour les plus publics le prophète صلى الله عليه وسلم ne délaissait jamais les jeûnes suivants, c'est-à-dire les carèmes suivants. On ne parle pas de Ramadan, les carèmes nafil suivants. Premièrement, Ashura, on aura l'occasion d'en parler, Muharram. Wal Ashr, les 10 jours, la décade de Dhul-Hijjah. Wa thalathata ayyam min kulli shahr, et 3 jours de chaque mois. Ces trois psaumes, ces trois jeûnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est forcé de ne jamais délaisser. Et dans la version de Abu Daoud, كان لا يدع الصيام تسعة الحجة, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais les 9 de Dhul Hijjah. À travers cette action, nous voyons une amal, une action vertueuse, un acte vertueux déjà, qu'on peut faire l'intention d'accomplir au mieux durant cette première décade, c'est dans la mesure du possible essayer de passer cette décade en état de sobre, en état de jeûne. Sans obligation bien sûr, mais ce serait quelque chose de louable parce qu'on aurait fait un gros effort pour meubler ce temps avec les bonnes œuvres. Et vous savez la règle, quand Allah voit un serviteur faire un pas vers lui, avoir une bonne intention, envie de se rapprocher de lui, ça démarre du cœur, et qu'il va concrétiser cette envie par une action, c'est-à-dire qu'il va faire des efforts, Allah Azza wa Jal, quand il voit ce serviteur faire un pas vers lui, Allah va faire 2 pas vers lui. C'est-à-dire, Allah va lui ouvrir les portes du Kaboul, va l'accepter. Et c'est ce qu'on avait dit en introduction, quand Allah nous accepte pour faire une bonne œuvre, une bonne action, c'est que réellement, Allah nous a aimés. Deuxième action qui est souhaitable, c'est Qiyam al-Layl, la prière de Tahajjud. Imam al-Shafi'i, rahimahullah, avait pour habitude de passer l'intégralité des nuits de la première décade de Dhul-Hijjah dans l'adoration de le Tahajjud. Il est rapporté de Sa'id ibn Jubair, radiallahu anhu, il donnait ce conseil, ça c'est mawquf, c'est une citation de Sa'id ibn Jubair, il disait, n'éteignez pas les chandelles, les bougies, lors des nuits de la première décade. C'est-à-dire, faites en sorte de ne pas dormir durant les nuits de la première décade, c'est-à-dire passer l'essentiel du temps dans le tahajjud, dans les du'as, dans les actes d'adoration. Donc ça nous fait 2 actions, le karim nafil, la prière de la nuit. Troisième action, le dhikrullah d'une manière générale. D'où le verset « Wa yadhkur smallahi fi ayyamin ma'lumat » Cela fait allusion à ces jours où il est important de faire un maximum de dhikrullah. Et parmi les adhkars qui sont sunnah durant ces jours, parce qu'on a dit « Fa'akfiru fihinna » Faites le maximum des adhkars suivants durant ces jours. « At-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid » Lisez beaucoup « La ilaha illallah » Lisez beaucoup « Allahu Akbar » et lisez beaucoup « Alhamdulillah ». Et ce qui est également bien de faire durant un séjour, c'est de lire le takbir d'une manière générale. Et vous savez qu'il est masnoun, qu'il est sunnah de lire le takbir à voix haute pour les messieurs après la prière en congrégation, le 9e de l'Hijjah, après la prière du Fajr, jusqu'au 13e de l'Hijjah, après la prière de Asr. Sachant qu'on va chercher la lune samedi soir et qu'il y a normalement peu de probabilité qu'on trouve dimanche et que très certainement le premier de l'Hijjah serait, maintenant on va voir la lune, on regarde toujours la lune, lundi, donc on compte le nombre de jours pour savoir quand est-ce que ce sera le 9e. Et si on oublie de lire takbir, notre frère Massoud sera là pour nous rappeler l'importance de lire le takbir. Parmi les moments extrêmement importants également, durant la première décade de Dhul-Hijjah, c'est un moment historique. Vous savez, une fois, il y avait un Yahoud, le dire, une personne de la communauté juive, qui a été voir Umar ibn al-Khattab lorsqu'il était calife. Il a été le voir avec une bonne intention. Il a dit, « Oh, Amir al-Mu'minin, chef des croyants, vous musulmans, vous avez reçu de la part de Dieu, vous avez reçu de la part d'Allah un verset extraordinaire. » Que si nous, Ma'ashara al-Yahoud, si ce verset nous avait été révélé dans la Torah, dans la Taurat, on aurait pris ce jour de révélation comme un Eid tous les ans. Si nous on avait eu l'équivalent de ce verset, tous les ans on aurait fait un Eid le jour où ce verset a été révélé. Et Umar ibn al-Khattab a demandé quel est donc ce verset, et il a cité Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dans le verset où Allah Azza wa Jal rappelle qu'en ce jour, La religion est parachevée. La religion est complète et parfaite. Retenons ces deux adjectifs. La religion, elle est parfaite. Elle peut être appliquée à tout moment, toutes les périodes de l'année, quelles que soient les civilisations, quels que soient les degrés de fitna également. Et surtout, elle est complète. Elle englobe toutes les facettes de la vie. Il n'y a besoin aucunement de rajouter quoi que ce soit, ni d'enlever quoi que ce soit. Et là, Omar ibn al-Khattab a répliqué, dit, je sais exactement. Inni la a'lamu al-yawm. Je sais exactement quand est-ce qu'Allah Azza wa Jal l'a révélé. Allah l'a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était debout à Arafat le vendredi. C'est-à-dire, ce verset a été révélé le 9e de Dhul-Hijjah. Donc ça, c'est également un moment important. Et enfin, pour conclure, le summum, la consécration des actions des a'mal salihah durant la première décade de Dhul-Hijjah, si on peut faire uniquement ça, ce serait dommage si on zappait les autres, mais au moins si on peut se concentrer sur cette action, bien sûr on a tous compris de quoi on parle, c'est le fait de jeûner le jour de Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Siyamu yawm Arafat, le jeûne du jour de Arafat, ahtasibu ala Allahi, j'ai grand espoir qu'Allah an yukaffira as-salata allati qabla wa allati ba'da, j'ai grand espoir qu'Allah, virgule, par le biais du jeûne de Arafat, nous pardonne les péchés de l'année passée et de l'année qui va venir. Et là, ça nous ramène vers le début de l'intervention. Comment est-ce qu'Allah a gratifié cette Ummah? Quels sont les bienfaits qu'Allah nous a accordés en termes de, en rapport de qualité prix, on pourrait dire, peu d'actions qu'on accomplit pour énormément de récompenses. Ce sont là, mes chers frères en islam, des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a accordés. La deuxième action importante durant cette première décade de Dhul-Hijjah, bien sûr, c'est le Udhiyah, c'est le Qurbani. Et à propos du Qurbani, le président, dans quelques instants, va s'adresser à nous concernant quelques règles d'éthique et de civisme à respecter. Ça, on a compris de quoi on parle concernant le Qurbani. Nous devons juste retenir un point, c'est que le Qurbani est une action symbolique. Et ce genre d'acte a été donné à toutes les communautés avant nous. Pour toutes les communautés, Allah Azza wa Jal avait accordé ce genre d'action, hein, ce genre de sacrifice. Et Zayd ibn Arqam radiallahu anhu avait demandé au prophète d'Allah quelle est donc la signification de ce udhiya du Qurbani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu sunnatu abikum Ibrahim, rawahu ibn Majah, c'est la sunnah de votre père Ibrahim. Et quand on parle de Ibrahim alayhi salam, on a l'unanimité de la part des trois religions monothéistes. Ils reconnaissent tous la suprématie et la grandeur d'Ibrahim alayhi salam. Donc, par le biais du Qurbani, je vais affirmer mon identité et mon attachement au prophète Ibrahim alayhi salam. Et en deux mots, vous savez le verset la yana Allah luhumuha wa la dima'uha wa la kin yanalhu taqwa minkum, c'est pas la chair, c'est pas le sang, c'est pas la beauté de l'animal qui est important pour Allah, mais c'est la taqwa. C'est-à-dire tout va démarrer du cœur. Ibrahim alayhi salam avait eu ce fils à un âge très avancé, à 83 ans. Ben Allah Azza wa Jal, lorsqu'il voit qu'Ibrahim a eu ce cadeau et qu'il est reconnaissant et que maintenant cet enfant grandit, il a aidé son père à construire la Kaaba. Il n'y a rien de plus réjouissant pour un papa que de voir le fruit de son éducation, de voir son fils qui maintenant est un peu plus grand et qu'il assiste dans ce qu'il a besoin de faire. Il a le cœur encore plus attaché à cet enfant. Maintenant, Allah Azza wa Jal demande à Ibrahim alayhi salam de le sacrifier, mais Allah ne voulait pas le sang d'Ismaïl, bien sûr. Tout comme Allah n'a jamais voulu le sang d'autres prophètes, Allah Azza wa Jal voulait voir la patience, l'amour d'Allah et la confiance totale qu'Ibrahim avait en Allah. Et cet amour, il s'est vu dans l'acte, dans la décision d'Ibrahim alayhi salam, tout comme dans la décision de son épouse, lorsqu'il devait l'abandonner dans le désert, elle avait demandé, est-ce que c'est Allah qui te demande de nous laisser dans cet endroit? Il a dit oui, dit donc, si c'est Allah qui te demande, nous acceptons. C'était l'éducation qu'Ibrahim avait donnée à sa femme et à son fils. Nous devons nous imprégner de cet esprit, Inch'Allah, comme c'est une action extrêmement importante, historique, à nous de mettre le maximum d'ikhlas, de sincérité dans ce amal. Jazakumullah khair.
Alhamdulillah, alladhi bayyana li'ibadihi al-haqq wa aqama al-dalil wa hadahum bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ila akmal hadyin wa ahda sabil. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بدار النعيم المقيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي وضح للأمة ما تحتاج إليه وينفعها من أمور الدنيا والدين حتى تركهم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفقهوا بأحكام دينكم ومقاصد الشرع لتعبد الله على بصيرة واعلموا يا عباد الله أننا سوف نعيش من أفضل أيام الدنيا هي الأيام التي أقسم الله بها في كتابه حيث قال والفجر وليال عشر يقول كعب رضي الله عنه اختار الله الزمان فأحب الزمان إلى الله الشهر الحرام وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة وأحب ذو الحجة إلى الله العشر الأول فاهتموا بهذه الأيام يا عباد الله بالإكثار من التقربات فإن الأعمال فيها أحب أعمال السنة عند الله فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام رواه البخاري فمن الأعمال المستحبة يا عباد الله الصيام تقول حفصة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع الصيام عاشورا والعشر وثلاثة أيام من كل شهر رواه الإمام أحمد وفي رواية لأبي داود كان لا يدع الصيام تسعة الحجة ومن الأعمال المشروعة يا عباد الله الإكثار من ذكر الله قال عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات يقول ابن عمر رضي الله عنهما ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد والتكبير عباد الله كالتالي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويشرع التكبير يوم التاسع فجرا إلى الثالث عشر عصرا وفي مثل يوم عرفات التي سوف نعيش نزلت آية من أعظم الآيات في القرآن إن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر أي آية؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة رواه الترمذي وأفضل العمل يا عباد الله في هذا اليوم هو الصوم قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده رواه مسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من قام بشرائع الإسلام وحقق الإيمان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، اتقوا ربكم واشكروه على ما أنعم به عليكم من مشروعية الأضاحي التي تتقربون بها إلى ربكم، فإن هذه الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لكم بكل شعرة منها حسنة وبكل صوفة حسنة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. ثم اعلموا يا عباد الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن معهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة والظالمين، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سقيمة قلوبنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.